Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce lundi. Dans un instant, nous aborderons ensemble les thèmes d'actualité à suivre cette semaine. Mais avant, le rappel de l'info, c'est avec Adrien Spiteri.
À Paris, le protoxyde d'azote, bientôt interdit aux mineurs. Un arrêté devrait voir le jour au printemps. Pris en flagrant délit de consommation, les jeunes risqueront une amende de 150 euros. Ces dernières années, la consommation de gaz hilarant s'est répandue. Il peut provoquer asphyxie, malaise, brûlure ou encore troubles neurologiques. Le bilan du bombardement de Dnipro s'alourdit. Au moins 40 morts ont déjà été recensés près de 48 heures après la frappe. Les opérations de sauvetage se poursuivent dans cette ville de l'est de l'Ukraine. De son côté, la Russie dément être responsable de l'attaque. Le Kremlin promet de brûler les chars occidentaux livrés à Kiev. Et puis le gouvernement envisage de pérenniser l'actuel mode de financement de l'audiovisuel public. Il le ferait via une fraction de la TVA. Elle avait été mise en place de façon transitoire après la suppression de la redevance l'an passé. Ce nouveau mécanisme est censé s'achever fin 2024.
Et au programme de la semaine, un jeudi noir de mobilisation, sinon rien, avec des policiers qui devraient eux aussi entrer dans la danse. Voilà prévu.
Nous ne voulons pas de cette réforme des retraites, car elle ne prend pas suffisamment en compte la dangerosité du métier. Dès le 19 janvier, nous serons présents, place de la République, aux côtés de tous les salariés, du public comme du privé.
On appelle ça chez nos amis anglo-saxons le name and shame. Dans ce cas, exposer, dénoncer un commerçant, faute d'avoir pu faire arrêter les voleurs dans son magasin, les dénonce publiquement et à visage découvert sur les réseaux sociaux. Efficace, vous jugerez vous-même.
J'ai perdu du temps, mais j'ai voulu porter plainte. Et puis après, on m'a dit, vous avez peu de chance que les choses aboutissent. C'est pour ça que j'ai publié ces images. Parce qu'aujourd'hui, je risque plus, moi, en tant que commerçant, que ceux qui ont volé dans mon magasin. Et ça, c'est pas normal.
Enfin, les bouchers jettent leur tablier pour dire à quel point ils souffrent aussi de l'envol tarifaire. Ça se passait à Bordeaux, aujourd'hui.
Henri, elle est à moins. T'as la banque qui t'appelle tous les jours, quoi. Et moi, j'ai été bosser l'été dernier un mois. J'ai fait la saison du 9 juillet au 15 août. J'ai été travailler avec ma femme en agence d'intérim. Tout le monde croyait que j'étais parti en vacances. Mais en fait, j'étais pas en vacances. J'ai été bosser pour payer mes crédits.
Et pour m'accompagner autour de cette table aujourd'hui, j'accueille Benjamin Morel. Bonjour, merci de nous rejoindre. Je rappelle que vous êtes maître de conférence. À vos côtés, Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID. Merci beaucoup d'être avec nous. Gabriel Cluzel est là également ce début de semaine. Bonjour Gabriel, je rappelle que vous êtes directrice de rédaction de Boulevard Voltaire. Et puis Éric de Rimaten pour le service Écho de CNews. Alors on prend les mêmes et on recommence. Scénario des files d'attente aux stations qui se reproduisent. À peine 2 mois, vous en souvenez forcément, après les premières grèves pour exiger des revalorisations de salaire chez Total et ExxonMobil. Anticipation, peur de la pénurie. La CGT de la branche pétrole appelle donc à des journées de grève à la fois les 19 et 26 janvier. Peut-être aussi le 6 février, un mouvement qui pourrait donc provoquer à nouveau des difficultés d'approvisionnement en carburant. Regardez ce reportage qui a été tourné par nos équipes. Commentaire, Célia Barotte avec Olivier Gangloff.
À la pompe, les files d'attente s'allongent de plus en plus. Dans les Hauts-de-Seine, de nombreux automobilistes craignent le réservoir vide ou les heures d'attente comme en octobre dernier. La solution, faire le plein en avance.
On n'a pas le choix, ça va encore recommencer le bordel.
Je ne roule pas beaucoup, mais je ne sais pas combien de temps le mouvement va durer, si ça va être très très sérieux ou pas.
J'ai fait le plein parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer la semaine prochaine. Et j'ai rempli un jerrycan en plus.
J'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il allait y avoir une pénurie d'essence, donc là, je suis direct sorti pour mettre le plein et pour mettre de l'essence un peu de côté.
Mais il semblerait que la pénurie de carburant ait déjà touché quelques stations-service en Ile-de-France. Hier, c'était la déception pour les conducteurs en recherche d'essence.
Ah bah regardez ma jauge d'essence, j'en ai plus du tout et il n'y en a pas. J'en mettrai plus tard.
Alors j'en ai besoin, je suis sur la réserve, j'ai pas pu faire le plein. 98 ou 95, il n'y en a pas.
Selon le président des distributeurs de carburant, les réapprovisionnements seront faits dès aujourd'hui et une grève de 24 ou 48 heures ne perturbera pas les raffineries. Le gouvernement, quant à lui, appelle à ne pas céder à la panique.
Faut-il avoir peur de revivre l'angoisse qu'on a vécue cet automne aux abords des stations? Écoutez ce spécialiste de l'essence, Olivier Gantois.
Il n'y a pas de risque avéré de pénurie à ce jour. Parallèle qu'on pourrait faire avec la crise qu'on a connue en octobre et les conséquences pour les consommateurs. On a des stocks normaux alors que fin septembre 2022, on avait des stocks exceptionnellement bas du fait des remises. Et deuxièmement, parce que la situation sociale en raffinerie est très différente. En octobre, on avait des grèves pour des questions de salaire dans les raffineries. Alors que là, on a un motif de grève qui est beaucoup plus lointain, qui est la réforme des retraites, qui touche à la limite tous les secteurs, voire tous les Français.
Éric Drimatel, on a beau avoir plus de stock, comme il l'explique très bien, il n'empêche, si tout le monde se rue en même temps aux abords des stations, au bout d'un certain temps, elles seront à sec et il faudra quand même patienter quelques heures. Ça veut dire que ça occasionne quelques problèmes de logistique et d'emploi du temps pour les salariés.
C'est vrai. D'ailleurs, il avait été envisagé à un moment, rappelez-vous, lors de la grève des raffineries, de rationner ou en tout cas d'interdire la vente par jerrycan. Donc peut-être qu'on va en revenir à cette situation. Par ailleurs, le marché du pétrole est toujours tendu. Alors paradoxalement, le pétrole est moins cher, hein, il est à 80 dollars le baril, mais pourtant l'essence continue de grimper. Et ce qui se passe aujourd'hui, ça crée une tension, notamment sur le sans-plomb 95, car la demande est très forte depuis que le diesel est en train de décliner. Et donc, on a du mal à suivre la production dans les raffineries de sans-plomb 95, ce qui explique aussi cette hausse des prix qui est très surprenante.
Benjamin Morel, est-ce que c'est un peu le premier étage de la fusée? Au fond, ça va servir de baromètre quand même, au moins pour les premiers jours de mobilisation.
En tout cas, en effet, c'est un élément qui peut être un élément relativement bloquant, parce qu'il faut voir qu'on se concentre sur les manifestations, on se demande combien il y aura de personnes jeudi, Fabien Roussel dit 1 million, etc. Mais ce qui compte réellement dans un rapport de force, c'est la capacité de blocage. Et là, dans les raffineries, on a vu que peu de personnes pouvaient avoir une vraie capacité de blocage. C'est également vrai aujourd'hui, en grande partie dans les transports. Vous voyez qu'en réalité, il n'y a pas besoin d'avoir un taux de grévistes extrêmement important pour bloquer un réseau. Donc ça va en effet être une jauge parce que, eh bien, un blocage sérieux, soutenu par une majorité de l'opinion, c'est pour le gouvernement le pire des scénarios.
Gabriel Cluzel, qu'est-ce que ça vous inspire, ce scénario qui se répète un peu à l'envi, sachant que maintenant on est quand même un peu rodé, donc on peut aussi anticiper, il y a ces applis qui se sont développées pour voir où on peut effectivement se... vers quoi on peut se tourner. Est-ce que c'est quand même un bon indicateur de la mobilisation sociale à suivre, à votre sens?
Je pense surtout que c'est un indicateur de la crainte des Français de repartir dans une situation extrêmement difficile pour eux. D'ailleurs, je crois que c'est dommage, cette communication visant un peu à ridiculiser ceux qui anticiperaient. C'est normal, des parents, un père de famille, une mère de famille anticipent pour leur famille. C'est normal qu'ils aillent dans une station d'essence au vu de ce qui s'est passé auparavant. Donc j'aime pas beaucoup cette rhétorique consistant à dire il faut pas céder à la panique, non mais c'est un peu ridicule, ce sont les consommateurs qui créent la pénurie. Non, ce qui crée la pénurie, c'est une situation sociale conflictuelle, et c'est un gouvernement qui, par le passé, a pu montrer qu'il affirmait quelque chose et c'était autre chose qui se passait. Donc je crois qu'il ne faut pas rejeter la responsabilité sur ces Français qui légitimement essaient d'anticiper une situation compliquée à venir.
Et puis il y a le chèque carburant qui entre en vigueur aujourd'hui. On va regarder d'ailleurs les barèmes qui vont s'afficher pendant qu'on en discute. Ce fameux chèque de 100 euros que le ministre du budget a décrit dans le menu détail et qu'il a justifié aussi. Alors je vous laisse quand même prendre connaissance des barèmes en fonction que vous soyez une personne seule, un couple avec un enfant, un couple avec deux enfants. Ça vous donne déjà une bonne indication de ce à quoi vous pouvez prétendre. Je vous propose aussi d'écouter donc Gabriel Attal et puis je vous fais réagir Jean-Michel Fauvergue.
À compter de ce lundi 16 janvier à 9h, 10 millions de Français sont éligibles à une indemnité pour les aider sur le coût du carburant. Vous le savez, les prix de l'essence sont encore hauts, ils ont augmenté. Et à la demande du président de la République, on a mis en place une aide. Cette aide, elle s'adresse à qui? Elle s'adresse aux Français qui travaillent. Et c'est très important pour nous, des Français qui travaillent, qui se lèvent le matin pour aller travailler, qui utilisent leur voiture, qui font face à l'augmentation des prix du carburant, qui ont souvent l'impression que les aides concernent avant tout ceux qui ne travaillent pas, alors qu'eux-mêmes font beaucoup d'efforts. Et donc 10 millions de Français qui travaillent pourront bénéficier de cette aide de 100 euros.
Jean-Michel Fauvet, bon, ça donne un peu l'impression que les autres ne travaillent pas, sans doute. Ouais, dit comme ça, en tout cas dans la justification.
Alors, ce discours qui... c'est... Là, le ministre le tient et d'autres l'ont tenu auparavant. Il n'y a pas que les ministres qui le tiennent, il n'y a pas le gouvernement. Qui consiste d'opposer les Français les uns sur les autres. C'est un discours difficile à entendre. C'est, et je, Je veux dire, en termes d'argumentaire, ça me semble pas terrible comme discours d'une manière générale. Et là, encore une fois, je ne vise pas que les membres du gouvernement, parce que ce discours-là est aussi utilisé aussi par les syndicats, les organisations syndicales, etc. Moi, je pense que ce qu'il y a de nouveau dans l'aide d'aujourd'hui, c'est qu'elle est ciblée sur les gens qui ont le moins de moyens. Et ça, c'est ce discours-là qu'il faut avoir. C'est-à-dire qu'auparavant, nous avions une aide qui est allée jusqu'à 30 centimes de réduction à la pompe, ensuite 10 centimes par l'État, et qui s'adressait à tout le monde, y compris ceux qui ont le plus de possibilités de se financer ça. Le fait de véritablement de cibler les gens et les couples et les foyers qui en ont le plus besoin, ça me semble être une nécessité sociale et ça vient se surajouter à la politique de solidarité que l'État français, d'une manière générale, distribue quotidiennement.
Bon, 100 euros, Gabriel Cluzel, on a tous en tête à peu près ce que ça représente. C'est un plein, hein, grosso modo. Aujourd'hui, quand vous avez une voiture, une grosse cylindrée, surtout si vous travaillez loin, généralement, vous avez un peu une plus grosse voiture. Il n'y a pas un côté un peu misérabiliste ou un peu...
Oui, c'est la France a pris, l'État a pris cette posture de dame patronesse qui distribue des petits pains aux manants. C'est désagréable comme façon de faire. Moi, je ne suis pas précisément d'accord avec le propos de Michel Fauvergue, parce que je pense qu'au contraire, quand toute la société est touchée par une crise telle que nous la vivons, eh bien, elle doit être amortie, cette crise, de façon générale et pas toujours simplement pour les foyers les plus modestes, parce qu'il y a des effets cliqués et c'est pas le bon mot, cliqués. Il y a des effets de seuil, voilà, qui font que quand on est juste au-dessus du seuil, on n'en bénéficie pas et ça suscite de fortes rancœurs. Je crois pas que ce système de la rustine et de l'aumône soit une bonne politique.
Ouais, justement, on va écouter quelques Français qui s'expriment à la pompe. Hein, on les a trouvés forcément dans les stations ce matin sur l'entrée en vigueur de ce fameux chèque. Écoutez.
Alors d'abord, je pense que c'est une bonne chose pour les foyers les plus modestes. Ensuite, est-ce que ça doit être élargi ? Non. Moi, je suis retraité, j'ai une retraite à peu près correcte et je ne me déplace pas beaucoup. Donc, je n'ai pas besoin de ristourne sur l'essence.
Tu peux élargir, je pense qu'au moins jusqu'à 2000 euros, parce que voilà, les foyers modestes, je pense qu'on est entre les deux et du coup, on n'a pas d'aide. Donc voilà, ça concerne peu de personnes en fait.
Il faut élargir un peu plus, bien sûr, évidemment. Surtout qu'il n'y a pas que ça en plus, il n'y a pas que le carburant, il y a l'électricité, il y a les denrées alimentaires qu'on mange, les premières nécessités en plus.
Voilà un bon échantillon quand même de ce que pensent les Français, et notamment cette dame qui dit voilà, quand on est juste au-dessus, on est un peu entre les deux, on n'y arrive pas, mais on n'a pas d'aide, on ne peut pas y prétendre. Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon de procéder dans les arbitrages qui ont été pris ?
Oui, mais ils auraient coûté très très cher. Vous savez, le problème des carburants, ce sont en fait les taxes sur la TICPE, vous savez, qui avaient été mises en place par François Hollande pour des raisons environnementales. Et donc là, à l'époque, ça a rapporté 10 milliards. Et quand je dis à l'époque, c'était il y a 10 ans. Donc depuis 10 ans, vous voyez, vous avez 10 milliards qui sont rentrés en plus chaque année et donc qui alimentent indirectement les caisses de l'État. Et aujourd'hui, on arrive vraiment au point de rupture. C'est ça le vrai problème. Donc qu'est-ce qu'il faut ? C'est à terme une réforme de la fiscalité sur les carburants. Il y a trop de taxes sur les carburants, ce qui fait que maintenant, même quand vous avez une petite progression de 10 centimes, même si l'État vous donne 10 centimes de ristourne, ça ne fait plus rien. C'est tout de suite effacé. Et là, pour en revenir aux 100 euros qui sont versés, je donne le coût pour l'État, c'est 800 millions d'euros. Je vous donne maintenant le coût des 30 centimes de réduction l'an dernier de ristourne, c'était 8 milliards. Ben voilà, vous avez tout compris, hein. C'est que l'État ne peut plus ouvrir cette boîte de Pandore et continuer de distribuer de l'argent comme ça, puisque de toute façon, le quoi qu'il en coûte a disparu et que l'État veut maintenant commencer à serrer les vis.
Donc, alors, en France...
Voilà. Mais donc, du coup, effectivement, vous avez raison, ils donnent de l'argent, mais pas suffisamment, et vous faites, sur 10 millions de personnes qui en profitent, vous en avez à côté 30 millions qui, malheureusement, sont exclus. Ouais.
Alors, en France, donc, on a compris qu'on n'avait pas de pétrole, on n'a pas d'argent non plus, enfin, on n'a plus d'argent, mais on a des idées, eh bien, pour contrer l'inflation dans l'alimentaire, cette fois, il y a une nouvelle idée qui a germé au sein de l'exécutif, en concertation avec les grandes enseignes, c'est ce qu'on appelle le panier anti-inflation, décrit en ces termes par Olivier Véran.
Plusieurs chaînes de magasins qui vont proposer des tarifs, parfois ce qu'ils appellent des prix cassés, des prix bloqués sur un certain nombre de produits de paniers essentiels. Et ce que considère le gouvernement, c'est que autant faire en sorte d'harmoniser, d'uniformiser et de faire en sorte que la totalité des grandes marques de distribution propose un certain nombre d'aliments, d'éléments de paniers essentiels du quotidien à des prix qui soient des prix extrêmement faibles pour permettre d'améliorer le pouvoir d'achat des Français. Ce n'est pas du tout antinomique ou contradictoire avec le travail parlementaire qui est en cours, que le gouvernement devra regarder en temps voulu, qui consiste à améliorer et renforcer les relations entre les distributeurs et les producteurs.
Alors là, Benjamin Morel, je vous avoue que je ne comprends pas très bien. Qui est à la manœuvre? Le gouvernement, les enseignes? Dans ce cas, quel est le crédit à apporter au gouvernement de jouer une sorte de rôle de facilitateur?
Un peu les deux. C'est-à-dire que pour le gouvernement, il s'agit en effet de lancer des projets en espérant ensuite que les enseignes suivent. Et les anciennes, les grandes enseignes ont tout à fait intérêt à dire « Regardez, on lutte contre l'inflation, va aller chercher un panier ». De toute façon, ce sont des produits sur lesquels les distributeurs font assez peu de marge. Donc ça permet d'être un produit d'appel en espérant que le client va aller chercher tel ou tel produit au passage qui, lui, aura pas été modéré dans son prix concernant l'inflation. Donc c'est de la vieille politique commerciale et c'est comme ça que tient en France la grande distribution. Mais en soi, ça ne règle rien. Oui. C'est-à-dire que là, on agit sur le symptôme, on agit sur la communication. Ça permet d'aider en effet quelques Français qui sont en difficulté en leur pointant des produits. Mais le problème structurel qui est lié à la hausse du coût des matières premières, à la hausse du coût de l'énergie qui entraîne des hausses importantes dans l'alimentaire, eh ben, ça ne va pas s'éteindre avec ça. Et là, ça implique des réformes de structure.
Alors, il y en a un autre qui y a fait référence, c'est le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui lui aussi était invité sur les plateaux télé. Écoutez, il y apporte une petite subtilité avec une petite pique politique, bien sûr, à l'opposition.
Dans le fond, est-ce qu'on ne pourrait pas tous faire un effort? Regardez 20 produits de première nécessité, des produits d'hygiène, des produits alimentaires, sur lesquels vous vous engageriez à avoir le prix le plus bas possible, de façon à ce que tous, ensemble, nous amortissions le choc inflationniste. Qu'est-ce qui me garantit que si je baisse la TVA, ça n'ira pas dans la poche des distributeurs? On a fait dans le passé, depuis des années et des années, des baisses de TVA, et que la plupart du temps, les Français n'en ont pas vu la couleur.
Bon, la TVA, on l'a compris, c'est la réponse directe au RN qui proposait un passage à zéro sur un panier de 100 produits, je crois, de première nécessité. C'était a priori un programme plus ambitieux. Bon, quoique sur le chiffrage, on ne soit pas très sûr, on fait toujours de la politique. Hein.
Oui, mais pas que. Aussi, on fait de la politique, évidemment, en s'appuyant sur ce qui s'est passé par le passé. Je vous rappelle la baisse de la TVA pour les restaurateurs, c'est depuis très longtemps. On n'a pas vu beaucoup de différence sur à la fois le prix qu'on fait payer les restaurateurs aux consommateurs ou alors sur l'emploi, sur le fait d'employer de nouvelles personnes. Donc, effectivement, ça pose un problème. Et là, on est quand même sur une bataille aussi entre enseignes, entre distributeurs et fournisseurs. C'est quelque chose d'important. Et à la veille de ce qu'on appelle une PPL, une proposition de loi déposée par des députés qui veulent revoir l'ensemble, en particulier les députés de la majorité de Renaissance, qui veulent voir l'ensemble du mécanisme entre distributeurs et fournisseurs. Et je pense que ce que le gouvernement, par l'intermédiaire de M. Véran, ce que le gouvernement est en train de faire, c'est de dire aux distributeurs, attention, vous aidez-nous à lutter contre l'augmentation de prix le plus possible, et en particulier sur les produits de première nécessité. On va voir comment on va dealer avec notre propre majorité sur cette proposition de loi qui arrive sur le terrain aujourd'hui.
Si on tentait de démêler un peu, le vrai du faux sur l'affaire de la TVA, c'est pas du tout probant, cette proposition du Rassemblement national qui figurait déjà en plus dans la campagne présidentielle de Marine Le Pen?
Je doute, parce que vous avez certains produits qui sont déjà à 5%, 5,5%, donc sur les produits, certains produits de première nécessité. D'autres produits de grande consommation, comme les pâtes, c'est 10% de TVA. Mais vous savez, un paquet de pâtes, c'est 2 euros. Donc 10% de TVA, ça va faire 2,20 euros. Vous voyez, donc, est-ce que vraiment le gain serait... Et là où Bruno Le Maire a raison, c'est qu'à ces niveaux de petite TVA, finalement, celui qui peut s'enrichir, c'est plutôt ou bien l'industriel, hein, puisqu'il est quand même accusé par la grande distribution de monter les prix, ou bien la grande distribution qui, justement, essaiera de refaire des marges. Mais bon, on voit... Voilà, vous voyez, ce qu'il faut voir, c'est finalement ce que gagnent les grands hypermarchés. Il suffit de voir les grandes chaînes, là, je ne veux pas donner de nom, mais vous regardez sur les bénéfices annuels des grands hypermarchés, bah, vous verrez quelles sont finalement les marges et quels sont ceux qui gagnent le plus.
Même question sur cette histoire de TVA. Je pense que c'est quelque chose que vous avez travaillé aussi.
Oui, non, il y a plusieurs points. Le premier, c'est qu'il y a quand même la fâcheuse habitude dans ce pays à faire de tout une question politique. Et il se trouve que le Rassemblement national étant faisant un peu figure d'épouvantail pour Renaissance, je pense que si le Rassemblement national dit que la tarte à la fraise c'est bon, et ben Bruno Le Maire va trouver que c'est pas bon. Il n'y a pas que le Rassemblement national qui a proposé ça, puisque je crois que l'Espagne ça fait partie des mesures qui ont été mises en place. Et c'est perçu par une population comme quelque chose de juste pour deux raisons. Alors après, les résultats, il faut les voir une fois mis en place. Mais parce que, encore une fois, contrairement à l'Aristote dont vous parliez tout à l'heure, c'est quelque chose qui est harmonieux pour toutes les tranches de la société, tout le monde. Voilà. Et puis parce que c'est arithmétique avec l'inflation, puisque la TVA est proportionnelle, on se dit que l'État touche plus de TVA. Donc en réduisant la TVA, c'est finalement qu'un réajustement qui paraît normal. Donc jeter tout cela à la poubelle sous prétexte que le Rassemblement national l'a proposé, c'est dommage. S'il veut que Bruno Le Maire garde l'idée que l'Espagne l'a fait.
C'est-à-dire que s'il avait été honnête intellectuellement, il aurait pu se pencher un peu plus.
Disons que j'ai pas compris dans sa démonstration ce qui justifiait de le mettre absolument de côté. Ouais. Parce que les restaurateurs, c'est pas tout à fait la même chose que la grande distribution.
Benjamin Morel l'a-t-il compris, lui ?
Oui, c'est-à-dire que, enfin, je rejoins ce que disait Eric tout à l'heure, c'est-à-dire que, grosso modo, la différence avec l'Espagne, c'est qu'on a un modèle de distribution assez singulier. On a de la grande distribution et de la grande distribution qui fait absolument pas de marge sur les produits alimentaires. Lorsque vous avez des grandes promos sur l'alimentaire, il faut voir que souvent, c'est vendu quasiment à perte. Parce qu'en réalité, l'objectif, c'est de vous faire venir dans le supermarché pour que vous achetiez une brosse à dents électrique, que vous achetiez des vêtements, que vous achetiez, etc. Et ce pourquoi vous étiez venu, c'est-à-dire des boîtes de haricots blancs. Et donc, grosso modo, si vous baissez la TVA sur ces produits-là, eh bien, les distributeurs vont se refaire un petit peu de marge, mais il est probable que les prix baissent assez peu, en tout cas, pas dans la limite qui est celle de la TVA. Donc, c'est pas idiot sur le principe, et je doute que ce soit très efficace.
Monsieur Fauvergue, juste un dernier mot.
Oui, juste un dernier mot assez rapide, et je rejoins ce que je disais tout à l'heure. Baisser la TVA ou annihiler l'effet de la TVA sur des produits de première nécessité, c'est forcément injuste aussi, parce que ça profite à tout le monde, et en particulier, et je rejoins ce que je disais tout à l'heure, ceux qui ont le plus de moyens aussi. Donc c'est quelque chose qui est forcément injuste. Et je rappelle que dans un État comme le nôtre, qui est un État qui est basé sur la solidarité, c'est un peu choquant. Il est basé sur la solidarité. Notre État ne fait pas l'aumône ni un État misérabiliste. Sur 1000 euros, je rappelle qu'il y a 575 euros qui sont redistribués en solidarité en France.
Oui, précisément. C'est pour ça que je crois que toute politique ne doit pas être fondée que sur une aide aux plus modestes, dans la mesure où c'est tout un pays, notamment des classes moyennes qui bénéficient pas de ces aides.
Le problème avec
si vous voulez aider un pays, c'est aider un pays complètement.
C'est les plus modestes qui souffrent le plus.
Oui, non, mais nous sommes bien d'accord, mais les autres souffrent aussi.
Oui, bon, bien sûr.
On va passer à la chronique, c'est déjà l'heure de votre chronique éco. On va y rester quand même sur cette notion d'inflation sur l'alimentaire. À tout de suite.
Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
Parler précisément de ça, de la TVA, est-ce que ce ne serait pas l'État qui serait le principal gagnant dans cette affaire ?
Alors, si, bien sûr. D'abord, écoutez, la TVA, c'est la première recette du Trésor public. 160 milliards, ce n'est pas compliqué, c'est le plus gros impôt, finalement, la TVA. Alors, l'an dernier, oui, l'État a vraiment gagné beaucoup d'argent avec d'abord la hausse des prix du carburant, les prix qui ont commencé à monter. Alors maintenant, la moyenne, on dit, c'est autour de 5%. Bon, bien la réalité, quand vous regardez les prix dans les grands magasins, c'est quand même, enfin dans la grande distribution, c'est quand même autour de 10 à 15% pour l'alimentaire. Mais oui, les rentrées fiscales ont été bonnes pour les caisses de l'État. Et si on regarde sur le carburant, eh bien, vous savez que lorsque le litre arrive à 2 euros, c'est 6 centimes de plus de TVA. Donc c'est bien, mais l'an dernier, comme il y a eu des ristournes de 18 et 30 centimes, vous voyez, ça a varié, mais on est arrivé 30 centimes à un moment, et je le disais tout à l'heure, ça a coûté 8 milliards à l'État, donc là, effectivement, l'État a redistribué plus ce qu'il avait engrangé. Donc là, le débat est clos. Cette année, eh bien, la ristourne à la pompe, elle a disparu au profit du chèque dont on parlait. Ça coûtera 800 millions. Mais c'est vrai que les rentrées fiscales...
C'est beaucoup moins cher quand même.
C'est quand même moins cher. Mais l'État a dit, on va serrer les vis. Donc on peut comprendre après tout son raisonnement. Sinon, on accuse l'État de dilapider la caisse, comme on dit, et puis on lui reproche quand il serre les vis. Donc il faut quand même qu'il soit cohérent, et il l'est. La TVA, vous en parliez. Baisser la TVA... Bon, imaginons même sur un plat de pâtes, je le disais, le gain est que de 2 centimes si la TVA était baissé. Donc vous voyez, c'est vraiment rien du tout, 2 centimes.
Ensuite, si vous prenez
un... voilà. Ouais, mais il faut voir le volume de tous les produits. Vous nous parlez des pâtes, mais il y a beaucoup d'autres choses. Mais
l'impact générerait, les prix augmentent, quand les prix augmentent sur un paquet de pâtes à 2 euros, eh bien ça ne génère que 2 centimes de TVA de plus. Une augmentation de 10%, c'est 2 centimes sur un paquet de pâtes. Donc c'est pas grand-chose. Dernier point, et je termine par là, l'État est quand même gagnant sur un point, parce qu'on l'oublie, avec 3 000 milliards de dettes, quand vous avez... disons 10% d'inflation, 5% cette année, 5% l'an dernier, 5% cette année, eh bien,
10% de 3 000 milliards, ça fait combien ? 300 milliards. Et donc la dette commence à s'éroder un petit peu. Et ça, c'est un bon bénéfice pour l'État, même si après, il va devoir peut-être emprunter à des taux plus élevés. Mais là, l'État regarde d'un bon œil quand même cette inflation qui va réduire sa dette.
Merci, c'était la chronique éco.
C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
Après les difficultés en matière de consommation pour les Français, on va parler de la mobilisation contre la réforme des retraites, manifestation ce jeudi, et puis bien sûr la crainte aussi de voir à nouveau des débordements en cas de grosse densité de population, la présence des Black Blocs aussi. On en parlera avec un représentant des forces de l'ordre. À tout de suite. De retour, la deuxième partie de l'émission, ce sera juste après le JT de Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
Bonjour Nelly, bonjour à tous. Vladimir Poutine dénonce les livraisons croissantes d'armes occidentales à l'Ukraine. Lors d'un entretien téléphonique avec son homologue turc, le président russe a critiqué, je cite, « les parrains occidentaux de l'Ukraine qui augmentent leurs livraisons d'armes et de matériel militaire ». Une discussion qui intervient au moment où le Royaume-Uni s'apprête à fournir des chars Challenger 2 à Kiev. Le chèque carburant entre en vigueur aujourd'hui. Il s'agit d'une prime de 100 euros mise en place par le gouvernement pour les 10 millions de travailleurs les plus pauvres. Il faut pour y être éligible gagner moins de 1314 euros net par mois. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, nous explique comment en bénéficier.
Cette aide, elle concerne tous les Français qui utilisent leur véhicule pour travailler au quotidien. On vous demande votre nom, votre prénom, votre date et lieu de naissance, votre plaque d'immatriculation, le numéro de votre carte grise, le fameux revenu fiscal de référence que vous pouvez trouver sur le site des impôts ou sur votre déclaration d'impôts. Avec toutes ces infos, vous allez sur le site impots.gouv.fr, ça prend une minute, et d'ici une grosse semaine, vous percevrez directement sur votre compte en banque 100 euros, encore une fois, par personne qui a fait cette demande. 10 millions de Français sont invités à le faire. Vous avez un mois et demi jusqu'au 28 février pour faire cette demande. Et je vous garantis que c'est simple et il n'y aura pas de bug.
Bonne nouvelle pour les urgences de Pontoise. Un accord de sortie de crise a été trouvé avec la direction de l'hôpital. Depuis une semaine, des soignants étaient en arrêt maladie. Ils ont repris le travail aujourd'hui. Il s'agissait principalement d'infirmiers, de brancardiers et d'aides-soignants. Anne Hidalgo veut créer un code de la rue. Dans son interview au Parisien, elle explique vouloir dicter le comportement à adopter aux piétons, aux cyclistes et aux utilisateurs de trottinettes. Alors, est-ce une bonne idée ? Réponse dans les rues de la capitale avec ce sujet de Thibaut Marcheteau.
Un couple sur une trottinette, des piétons qui traversent au rouge ou encore un feu brûlé par un cycliste. Ces incivilités sont fréquentes dans les rues de la capitale. Consciente de la situation, Anne Hidalgo propose l'élaboration d'un code de la rue.
Chacun tente de trouver sa place, un peu au détriment de l'autre. C'est un peu le bazar. Il manque un code de la rue pour dire comment on se comporte et comment la police municipale sanctionne ceux qui ne respectent pas les règles.
Cette proposition est issue de la consultation citoyenne et semble correspondre aux attentes des Parisiens.
Il faut légiférer. Les Français, tant qu'il n'y a pas de loi, on fait un peu ce qu'on veut. Et malheureusement, on a bien vu que là, si on se pose la question qu'il faut légiférer, je pense que déjà, ça veut dire qu'il faut le faire, quoi.
C'est quand même une bonne idée. Parce que ça peut faire prendre conscience aux piétons et aux cyclistes qu'ils ont des responsabilités, un petit peu comme tout le monde, et que ça comporte aussi des risques qu'il faut maîtriser quand on prend son vélo ou quand on va marcher dans la rue, quoi. Être conscient de tout ça.
Ce code de la rue devrait voir le jour au mois de juin prochain. Il vise à améliorer la cohabitation entre les différents usagers de la route.
L'actrice Gina Lollo Brigida est morte à l'âge de 95 ans, ancienne sex-symbole et star du cinéma italien dans les années 1950 et 60. Elle avait conquis Hollywood. Hospitalisée en septembre dernier après une fracture du col du fémur, on revient sur la carrière de Gina Lollo Brigida avec ce sujet de Viviane Hervier.
Elle fut une Esmeralda inoubliable, sans doute l'un des plus beaux rôles de Gina Lollo Brigida.
Je ne sais pas, c'est le même.
Comment peux-tu en douter ?
C'est le même comme je l'aime.
Lorsqu'elle tourne Notre-Dame de Paris en 1956 sous la direction de Jean Delannoy, Gina Lollo Brigida a 29 ans. Elle est déjà une star dans son pays, mais aussi à l'international. Pourtant, ses débuts sont difficiles. Dans l'Italie de l'après-guerre, où l'on veut oublier avec la Dolce Vita les années noires, Gina Lollo Brigida fait partie de ces innombrables jeunes filles qui veulent tenter leur chance à Cinecittà. Sa plastique et ses courbes généreuses vont l'aider.
Quello è un diavolo scatenato. Meretrice.
Rapidement, les réalisateurs la remarquent. De figurante, elle va passer au second rôle, puis au premier. En France, elle va donner la réplique à Gérard Philippe dans Fanfan la Tulipe. Lorsqu'elle s'envole pour les États-Unis, c'est pour jouer avec les plus grands. Humphrey Bogart.
Tifo tu and tu for ti.
Burt Lancaster sera son partenaire dans Trapèze.
I wanted to make sure it wouldn't split.
Aux côtés de Yul Brynner, elle campe une reine de Saba à la fois sensuelle et impétueuse. Frank Sinatra succombera aussi au charme de la belle italienne.
I kissed you, lady, and you kissed me back.
Yo.
I got the message.
Dans les années 60, Gina Lollobrigida continue à enchaîner les films et sa carrière marque le pas. Elle divorce en 1968 du père de son fils unique et s'intéresse de plus en plus à la photographie qui devient sa deuxième passion. En 2018, elle obtient son étoile sur Hollywood Boulevard, hommage tardif mais qui témoigne de la place occupée dans le 7e art par Gina Lollobrigida, longtemps désignée comme la plus belle femme du monde.
Véritable légende du cinéma. Voilà pour l'actualité, c'est la fin de ce journal. Bon après-midi sur CNews avec Nelly Denac et la suite de 90 minutes info.
Merci beaucoup Gina, que les moins de 40 ans ne semblent pas connaître. Je vous l'assure, enfin, je sais pas, vous connaissiez, vous avez quelques souvenirs de films?
Oui, j'ai quelques souvenirs de films.
Ouais. Ouais. Vous en avez entendu parler, quoi. Benjamin, vous êtes trop jeune.
Non, j'ai
entendu parler, mais...
Ouais. Enfin, c'est quand même toute cette génération d'actrices qui étaient les divas italiennes... Des années 50-60, ça vous évoque un peu quelque chose, forcément.
Ah oui, bien sûr. Ouais. Moi, je ne savais plus trop bien à quoi elle ressemblait, mais je me souvenais qu'elle avait des formes généreuses. C'était la réputation qu'elle avait. Voilà, que c'était une actrice qu'aimait beaucoup mes parents et grands-parents.
Oui, ouais, pareil chez moi. Allez, on va passer à ce qui nous intéresse, la manifestation de jeudi et cette peur du retour des Black Blocs, il faut bien le dire, pour les forces de l'ordre. Les représentants syndicaux et les autorités ont prévu de se voir d'ailleurs pour préparer au mieux l'organisation et l'encadrement de cette manifestation pour les différents services d'ordre. Alors à quoi faut-il s'attendre? Le résumé est signé Barbara Durand.
Comment éviter à tout prix de nouveaux débordements? Jeudi à Paris, mais aussi à travers toute la France, des milliers de personnes sont attendues dans les rues. Des casseurs pourraient se greffer aux manifestants, c'est l'avis de Bertrand Cavalier, expert en sécurité.
Le retour des Black Blocs est hautement prévisible. Chaque fois qu'il y a des manifestations, d'autant plus si elles sont importantes, ils essaient de s'immiscer et puis comme d'usage de provoquer des troubles, de s'en prendre notamment au symbole de l'État et au symbole du capitalisme. Donc je crois que de ce point de vue, la menace sera assez élevée.
Des fauteurs de troubles difficiles à identifier et à neutraliser, selon cet expert en sécurité.
Nous avons affaire à une véritable nébuleuse. C'est la marque même de fabrique des Black Blocs, de ne pas constituer un groupe structuré, aisément identifiable. Le défi reste permanent, même si les capacités des pouvoirs publics sont améliorées depuis quelques années.
L'organisation des différents services d'ordre en amont devrait permettre de limiter les actions des casseurs. Pascal Bito Panelli, spécialiste en sécurité, semble confiant.
La préparation, l'anticipation, plus le travail fait avec les syndicats vont sans doute permettre de plus tenir cette manifestation, mais néanmoins, on ne peut pas dire que nous serons face à un risque zéro.
La présence de Black Bloc, un premier gros défi pour Laurent Nunez, nommé préfet de police de Paris en juillet dernier.
Bonjour Mickaël Dequin, je rappelle que vous êtes secrétaire départemental de l'unité SGP 92, vous êtes avec nous à distance via la technologie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de parler de la mobilisation qui va vous intéresser aussi au premier chef, un mot quand même de votre corps de métier et de votre mission première, c'est-à-dire le maintien de l'ordre. Puisqu'on parle des Black Blocs et de l'actualité immédiate, qui dit volume important de manifestations dit de toute façon menace permanente de ce côté-là. Là aussi, vous nourrissez quelques craintes?
Oui, je crois qu'on a vu que c'est sur les dernières manifestations et les derniers gros conflits sociaux, dès qu'il y avait une opportunité justement de se confondre aux gens qui viennent exprimer leur mécontentement pour diverses raisons, on est confronté à ce genre de réseaux, de blocs qui arrivent comme ça et qui n'ont qu'un seul but, hein, c'est de casser du mobilier urbain, casser des vitrines, enfin s'attaquer à tout ce qu'ils peuvent s'attaquer. Derrière, l'importance du travail, en fait, il est sur place le jour J, notamment aux abords de la manifestation et bien en amont, avec la mise en place de contrôles préventifs et de tout un tas de dispositifs permettant justement d'éviter à ces gens de se greffer au cortège officiel, entre guillemets.
Oui. Alors, on vous rejoint dans un instant, parce que vous allez nous parler des raisons qui vous poussent, vous aussi, à faire grève, pardon, à vous mobiliser, en tout cas, pour la défense du système de retraite actuelle, mais j'aimerais qu'on fasse un tour de table. Gabriel Cluzel, on a coutume de dire, et là c'est quand même à l'appel des syndicats, que les mobilisations, lorsqu'elles sont encadrées par les syndicats, se déroulent généralement mieux parce qu'ils ont un savoir-faire, parce qu'ils ont leur propre service d'ordre. On peut espérer que ce soit le cas, en tout cas pour ce jeudi.
Oui, on va l'espérer, mais c'est vrai que, comme le disait le général Cavalier, les Black Blocs font la stratégie du coucou, c'est-à-dire qu'ils se greffent sur une manifestation préexistante. Je dirais simplement deux choses. C'est pas n'importe quelle manifestation, c'est toujours des manifestations de gauche. Il y a donc une forme de miscibilité. Il faut qu'il y ait quand même un peu de tolérance de la part des organisateurs, parce que j'ai jamais vu moi de Black Bloc avec la Manif pour tous, par exemple. Hein. Il faut qu'il y ait une forme de
un terreau fertile.
Un terreau, voilà, exactement. Et par ailleurs, je remarque qu'il n'y a pas eu la même sévérité de la part du ministère de l'Intérieur, en tout cas moi je ne l'ai pas perçu comme tel, à l'endroit de ces militants d'extrême gauche qu'il y a pu avoir avec par exemple les Zouaves et autres militants d'extrême droite. Alors on nous dit toujours ah, c'est compliqué de les identifier. Enfin, visiblement quand c'est l'extrême droite c'est pas compliqué, mais quand c'est l'extrême gauche c'est compliqué. Donc on va voir, écoutez, moi faut être optimiste, j'espère que vous avez raison et que le service d'ordre des syndicats saura les mettre à l'écart, mais néanmoins on peut être inquiet.
Alors, faut-il craindre aussi des blocages pour ceux qui ne feront pas grève et qui seront donc entravés dans leurs allées et venues ? C'est la crainte nourrie par une députée Renaissance qu'on va écouter.
Moi, j'essaie de discuter sur les retraites. Honnêtement, ce qui inquiète les gens, c'est les blocages qui vont être provoqués parce que les gens travaillent, ils ont des enfants, les infirmiers, les infirmières, toutes les professions qui ont besoin donc de se déplacer beaucoup. Ce qui inquiète, c'est ce qui va se passer le 19, mais pas tellement est-ce qu'on sera 1 million ou 2 millions ou 500 000 ou 300 000, c'est que va-t-il se passer le 19 pour que je puisse emmener mes enfants à l'école, pouvoir aller travailler.
Bon, Benjamin Morel, pour l'école, normalement, on sera fixé un petit peu avant. Hein. Peut-être qu'il y aura un gros mouvement et que les parents, de toute façon, resteront à la maison ou feront garder leurs enfants. Pour les infirmières ou les professions qui doivent se déplacer, on imagine quand même qu'il y aura des sortes de corridors.
Il y aura toujours des possibilités, mais malgré tout, ouais. Ça va évidemment être une nuisance.
Mais elle nous décrit un peu un scénario catastrophe, là, cette dame.
Oui, mais il faut bien comprendre que, encore une fois, les gouvernements n'ont pas grand-chose à faire du nombre de manifestants. Et si des professions qui ne sont pas bloquantes font grève, eh bien les gouvernements n'en ont pas vraiment quelque chose à faire. Mmh. Si jamais vous voulez remporter un bras de fer sur une réforme, il n'y a qu'une solution, c'est mobiliser et bloquer. Et cette mobilisation et ce blocage, quoi qu'on en pense, eh bien c'est le seul argument fort des syndicats. Un pays qui est bloqué très longtemps, ça coûte cher. Deux, ça crée des grognes. Et si ces grognes se retournent contre le gouvernement et pas contre les syndicats, le gouvernement se retrouve dans une position dans laquelle il est en capacité de reculer. Ça a été le cas en 1995, ça a été le cas sur le CPE, ça a été le cas sur la loi Savary. Les grands mouvements qui entraînent justement un blocage et qui ensuite font basculer les réformes sont des mouvements qui sont des mouvements.
Mais à quel moment vous placez le curseur ? C'est-à-dire que la grève, elle doit être bloquante pour quoi ? 15 jours, 3 semaines, 1 mois, c'est compliqué.
C'est tout le jeu. C'est-à-dire que, souvenez-vous ce qui s'est passé il y a peu de temps, en réalité, en 2019-2020, on a eu la plus longue grève de la Ve République et l'opinion était encore derrière les syndicats. Si jamais vous arrivez à instaurer ce rapport de force, eh bien évidemment, pour le gouvernement, c'est compliqué. Le gouvernement tente de résister en espérant que l'opinion se retourne et que les syndicats, la mobilisation, eh bien, s'affaissent, ou bien tente de faire passer le plus vite possible la loi. Parce qu'en règle générale, ce qui met tout le monde d'accord, c'est lorsque la loi est votée, la mobiliser, que ce soit les grévistes ou les manifestants, devient beaucoup plus difficile. Le gouvernement s'est organisé dans l'affaire pour que d'un point de vue procédural, ça passe très très vite. Donc on voit qu'actuellement, le jeu du gouvernement, c'est pas tant de démobiliser, c'est d'abord et avant tout d'être extrêmement rapide pour jouer la montre.
Et donc on l'a compris, et on y revient maintenant. Les policiers ne semblent pas être en reste. Je vous propose d'écouter l'un de leurs représentants. Vous allez voir, c'est assez cocasse, parce qu'il est avec le ministre juste à côté quand même, hein, Gérald Darmanin.
Nous ne voulons pas que 2023 soit une année noire sur le plan social pour les policiers. Nous ne voulons pas de cette réforme des retraites car elle ne prend pas suffisamment en compte la dangerosité du métier. Dès le 19 janvier, nous serons présents, place de la République, aux côtés de tous les salariés, du public comme du privé.
Comment peut-on envisager une réforme des retraites des policiers sans passer par notre ministre de tutelle ? Je vous le dis très directement et très solennellement, les policiers se mobiliseront massivement si nous n'ouvrons pas un cycle de discussion avec vous.
Michel Dequin, il s'agit là de deux autres syndicats hein, que le vôtre, mais bon, vous, vous y serez dans cette manifestation. Vous allez nous dire pourquoi. C'est suffisamment rare, hein, on le rappelle, pour être souligné. Donc ça veut dire que l'heure est grave pour vous ?
Alors c'est suffisamment rare et surtout, vous avez bien nous le rappeler, Nelly, tout à l'heure, nous n'avons pas le droit de grève, donc c'est uniquement des collègues qui, sur leur temps personnel ou de congé, vont se mobiliser pour montrer leur mécontentement à nos côtés, organisation syndicale de la police. Donc oui, l'heure est grave parce que on se rend bien compte que l'actualité nous montre tous les jours, les fonctionnaires de police ne peuvent pas continuer à travailler sur la voie publique, sur du maintien de l'ordre, sur des missions de tout type, à des âges... Là, en l'occurrence, on nous amène gentiment vers un âge limite à 59 ans. Enfin, je défie quiconque, même en forme physique extraordinaire, de se greffer un dispositif de maintien de l'ordre pendant des heures et des heures à l'âge de 59 ans et puis de pouvoir continuer comme ça le métier de policier normalement. Donc, il y a un moment où, en fait, on ne peut pas avoir double discours. On a un ministre de l'Intérieur qui est derrière ses forces de l'ordre et qui avait tenu un discours pourtant relativement clair à l'égard de cette réforme des retraites concernant notre institution. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il n'a pas forcément la parole sur ce sujet, puisque d'ailleurs, à part une simple réunion à laquelle nous avons préféré nous abstenir d'être présents, qui est organisée par notre administration pour évoquer le sujet, en force est de constater que le ministre de Justice, hein, de l'Intérieur reste complètement muet sur le sujet.
Alors, il y a un consensus syndical là aujourd'hui. Vous sentez que la mobilisation va être forte de votre côté ?
Très clairement, ça fait plusieurs jours que je suis contacté par des collègues de tout service qui souhaitent venir manifester ce jeudi, qui souhaitent montrer leur mécontentement. Et je crois en fait que c'est aussi un sentiment que les policiers, comme tout citoyen français, vivent actuellement. On nous parle de réforme des retraites. On est aussi confrontés, nous également, à l'inflation, le problème de la hausse du carburant. Enfin, tout un tas de choses qui fait qu'aujourd'hui, les policiers aussi, comme tous les citoyens de ce pays, on en a un petit peu marre.
Et vous voyez les policiers tenir sur la durée, c'est-à-dire que s'il y a d'autres mobilisations, se greffer à chaque fois et tenir eux aussi le pavé, la rue ?
Alors de notre côté, comme je vous l'expliquais, nous n'avons pas le droit de grève, donc c'est toujours assez compliqué de pouvoir se mobiliser comme ça sur la durée. Mais je crois que la détermination des collègues, de manière organisée, peut se manifester sur les différents mouvements qui seront organisés si besoin.
Merci beaucoup, Michel Dequin. Vous restez si vous voulez, parce que si vous avez une précision à porter, on continue encore quelques minutes cette discussion. Mais je vais me tourner vers Jean-Michel Fauvert, qui a été policier comme vous, ancien patron du RAID. Ça vous étonne, ce degré de... Comment dire de... De jusqu'au boutisme, en fait. Parce que moi, je trouve que ça me paraît très, très rare que les policiers donnent de la voix comme ça dès le début de l'annonce d'un mouvement.
Je pense pas qu'il faille parler de jusqu'au boutisme. Mais les policiers, comme les autres, sont touchés, effectivement, par le report de l'âge de la retraite dans le cadre de cette loi, même si le statut spécial des policiers n'est pas touché. Jusqu'à présent, vous savez que les policiers bénéficient d'un statut spécial, en particulier chaque 5 ans ils gagnent une annuité. Ouais. Ça n'est pas, pour le coup, sauf si quelque chose m'a échappé, ça n'est pas touché. Mais qu'ils soient solidaires avec effectivement cet allongement de la durée de travail, je suis pas étonné là-dessus. Qu'ils manifestent, je suis pas étonné là-dessus. Et d'ailleurs, dans le cadre de la manifestation, ça amènera un élément. Sécurisant la manifestation, qu'il y ait des policiers pour répondre à votre question de tout à l'heure, en particulier sur les Black Blocs, sur les Ultras, etc. Ouais. etc. Le bémol que je dirais, c'est qu'effectivement, on peut penser qu'on ne peut pas travailler jusqu'à 64 ans quand on est dans la police. En réalité, ce n'est pas la réalité exacte, ça. Vous avez un tas de policiers qui sont dans des services qui sont... Ouais. Pas au contact du terrain, mais des services importants, des services de renseignement qui sont là jusqu'à ces âges-là. Quoi.
Il est encore là, Michel Dequin. Michel Dequin, juste pour rebondir sur ce que dit Jean-Michel Fauvert, j'imagine que vous allez un peu vous dissocier. Il faut faire un distinguo quand même entre ceux qui travaillent dans les services, qui ont un profil plus administratif, et ceux qui effectuent des tâches de terrain qui nécessitent effectivement une forme physique beaucoup plus importante.
Si demain notre ministre nous garantit que tous les fonctionnaires de police qui auront dépassé 55 ans seront affectés à des tâches bureautiques, entre guillemets, avec des responsabilités en dehors de la voie publique, banco. mais je crois pas que ça soit le cas. Oui, en effet, on constate que des collègues prolongent des fois au-delà de l'âge du départ légal en retraite, sauf que derrière, c'est peut-être des fonctionnaires qui, de par le poste occupé, ne sont pas confrontés à ce genre de problématique. Aujourd'hui, personne ne peut nous garantir que tous les fonctionnaires de police qui vont vivre l'allongement de durée de cotisation seront concernés par des postes bureautiques, entre guillemets. C'est juste impossible.
Mais sur l'année, sur le statut spécial et l'année supplémentaire gagnée, vous confirmez ça existe encore ?
Oui, pour l'instant, on n'a pas remis en cause cette histoire de bonification. Maintenant, ça n'empêche qu'au lieu de partir, je le disais tout à l'heure, à 57 ans, avec donc normalement une retraite à taux plein, nous partirons à 59 ans. Donc c'est encore un recul. Et puis, dans l'exemple matérialisé, on peut aller loin comme ça. On a des collègues qui sont rentrés il y a une vingtaine d'années dans notre institution et qui se sont vus, à travers les différentes réformes, se faire ajouter entre 7 et 8 ans de plus. Donc à un moment donné, en fait, c'est quoi la prochaine étape ?
Oui. Mais Benjamin Morel, c'est ça aussi la spécificité de notre pays et de la société au sens large. C'est toujours difficile de revenir sur, parce qu'il le décrit bien, sur un acquis social. Voilà. Au fond, c'est ça. Oui. C'est pas tant l'âge en lui-même que le fait qu'on leur demande de renoncer à quelque chose qu'ils ont acquis au fil du temps.
Oui, bien sûr, mais il faut pas oublier non plus que les acquis sociaux, un, ça a été le produit de lutte, et que deux, souvent, ils ont un sens. C'est-à-dire que même si vous avez des professions qui ont pu changer, on pense notamment aux professions dans les transports, etc., les métros, les cheminots, c'est plus que c'était, entre guillemets, en termes de pénibilité que jadis. Malgré tout, il y a encore une pénibilité. Eh bien, malgré tout, vous avez des régimes spéciaux, des spécificités qui peuvent se justifier, preuve en est par la police. Où là, vous avez un métier qui est encore extrêmement difficile, extrêmement singulier. Donc l'idée que, grosso modo, en matière de retraite, il faudrait une sorte de commun général qu'ensuite on singularise par petits bouts n'est pas forcément une bonne approche. Il faut reprendre ces avantages, et au regard de ces avantages, il faut voir s'ils sont encore justifiés ou pas. Pour la police, ils m'apparaissent l'être.
Le dernier mot, et non, ça sera le vôtre le dernier mot, mais le dernier son de cette deuxième demi-heure, c'est un ancien président, François Hollande, ça ne vous a pas échappé, il a réagi lui aussi, écoutez ce qu'il disait.
Pour qu'une réforme soit acceptée, donc acceptable, il y a deux conditions à réunir. La première, il faut que ça corresponde à une situation d'urgence, sauver le système, ce qui était le cas en 2013, 2014 ou avant. La deuxième condition, c'est que la réforme soit juste. Or, aujourd'hui, ces deux conditions ne sont pas réunies. Qu'il y ait une nécessité de corriger, oui, bien sûr, mais tout de suite, au moment où les Français connaissent une inflation forte, une crise de l'énergie, une possible récession, la guerre en Ukraine, est-ce que c'est le meilleur moment ? Alors vous me direz, il n'y a pas de bon moment pour la réforme des retraites. Oui, mais il y en a de mauvais. Celui-là est un mauvais moment.
Pas justifié, pas le bon moment.
De fait, il n'a pas tort parce que les Français ont cette impression que le tapis se retire sous leurs pieds. Hein, cette impression de grand déclassement est une réalité pour beaucoup. Donc, rajouter ensuite à des éléments que l'État ne maîtrise pas, un élément qu'il maîtrise, à savoir la réforme des retraites qui est très déstabilisante. Alors, il peut donner tout un tas de bons arguments, mais c'est rajouter de l'instabilité à un climat d'instabilité. Donc, c'est en ça que cette façon de s'arc-bouter sur l'âge, par exemple, est extrêmement troublante parce que on sait que les Français redoutent cet élément précis et pourtant le gouvernement s'arc-boute. Par ailleurs, moi, je me permets de le dire, c'est un élément qui n'est jamais évoqué. Et là, François Hollande, lui, est en tort. C'est que nous avons un problème démographique. Pourquoi je dis que François Hollande est en tort ? Parce que c'est lui qui a initié la décrue de la natalité dans notre pays. Et on peut imaginer.
Je sais pas si on peut lui imputer non plus tous les...
Écoutez, pardon, si on regarde les cours... Lui-même. Non, parce que la France... D'accord. Non, mais il n'a pas décidé, mais un chef d'État, il prend des décisions qui ont des conséquences.
Il n'a pas eu une politique nataliste.
Il n'a pas eu une politique nataliste, il a même eu une politique contre-nataliste en modulant les allocations familiales. Et là où c'était en fait un dispositif nataliste, il en a fait un dispositif social, ce qui n'était pas sa vocation première. Et je termine terminerai juste sur un point. Il y a un point, là encore, qui n'est pas du tout évoqué, celui des femmes, la retraite des femmes. On parle beaucoup de féminisme, d'écriture inclusive, on parle du féminisme dans tous les sens. Mais je note, et c'est un lien avec la démographie, que les femmes, c'est les mères en réalité, qui ont une carrière fortement perturbée dans leur déroulement par leur maternité. Et elles devraient être rassurées, si on veut que la natalité se porte bien, il faut que la retraite des femmes soit
pour l'éducation.
Oui,
elles
gagnent, mais ça ne compense certainement pas tout ce qu'elles donnent par ailleurs en matière de carrière.
Allez, on va s'arrêter là pour cette partie. Merci encore, Mickaël Dequin, de nous avoir suivis jusqu'au bout et de nous avoir répondu aujourd'hui pendant votre temps syndical, j'imagine. Et dans un instant, on se retrouve pour parler d'autres professions qui souffrent. On parlera des bouchers qui se sont mobilisés, notamment à Bordeaux. Et puis du BTP, on en parle assez peu, mais c'est un secteur qui souffre énormément aussi de l'envol des matières premières et des coûts énergétiques. À tout à l'heure. Pour la toute dernière partie de notre émission, avec un petit écho en prime. Adrien Spiteri pour le rappel des titres, on se retrouve après.
La défenseure des droits Claire Hédon tacle les pouvoirs publics. Leur réponse face à la situation dans les EHPAD n'est pas à la hauteur, selon elle. Elle présente un rapport de suivi ce lundi. Il contient 64 recommandations émises en mai 2021 pendant la crise du Covid-19. Dans les EHPAD, les signalements pour maltraitance et atteinte aux droits sont en hausse. Rééquilibrer les négociations entre fournisseurs et distributeurs, c'est l'objectif d'une loi débattue aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Elle est vivement critiquée par le secteur de la grande distribution. Il s'inquiète d'une hausse générale des prix. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, appelle à retravailler la proposition de loi. Et puis des souverains de toute l'Europe étaient à Athènes ce matin. Ils ont assisté aux funérailles du dernier roi de Grèce, Constantin II. Il est mort mardi à l'âge de 82 ans. Critiqué pour ne pas avoir empêché l'accession au pouvoir de la junte, Constantin II avait quitté la Grèce en 1968 et vécu 40 ans à Londres.
Merci beaucoup. On va parler de ce commerçant qui a été victime de vols. Vous avez peut-être aperçu déjà les images sur notre antenne aujourd'hui. Eh bien, elle a décidé de diffuser le visage de ceux qui se livraient à ces vols dans sa boutique sur les réseaux sociaux, s'entend. Alors nous, évidemment, on a flouté les visages en question. Ça se passe à Amiens, dans les Hauts-de-France. Il a déposé une plainte, mais il a décidé donc de lancer cet appel à témoins parce qu'il ne croit pas du tout à la suite de cette plainte déposée au commissariat. Il va s'en expliquer dans le reportage qui suit. Geoffrey Defevre avec Célia Barotte.
Il est 16h48 le mardi 10 janvier quand cet homme entre dans la boutique amiénoise et dérobe une doudoune. À quelques minutes d'intervalle, c'est un couple qui profite que les vendeurs soient avec d'autres clients pour emporter avec eux deux parkas sans passer par la caisse. Au total, le préjudice est estimé à 700 euros. Des vols filmés par les caméras du magasin, puis diffusés sur les réseaux sociaux du gérant Jérôme Jean, qui souhaite dénoncer la répétition de ces actes malveillants.
Moi, je veux bien tous ceux qui me disent qu'il faut mettre un vigile. On met un vigile le samedi. Mais là, le vol a eu lieu un mardi. On avait certes du monde, mais les vendeurs et les vendeuses ne sont pas là pour faire de la sécurité. Nous, on les forme à vendre et à accompagner les clients. On ne peut pas passer son temps à faire de la sécurité.
Le gérant du magasin de vêtements a porté plainte, même s'il a peu d'espoir de la voir aboutir.
Déjà, on est de plus en plus rare à porter plainte, parce qu'on sait que globalement, ce sera classé sans suite. Mais j'ai voulu porter plainte, et puis après on m'a dit, vous avez peu de chance que les choses aboutissent. C'est pour ça que j'ai publié ces images. Parce qu'aujourd'hui, je risque plus moi en tant que commerçant que ceux qui ont volé dans mon magasin. Et ça, c'est pas normal.
Ce n'est pas la première fois qu'un commerçant décide de publier sur Internet le visage de ses malfaiteurs. En octobre dernier, à Forbach, le gérant d'un dépôt-vente avait lui aussi assumé cette démarche.
Morel, est-ce qu'on peut comprendre la démarche de cet homme désabusé qui ne croit plus du tout à notre système judiciaire ?
On peut bien entendu la comprendre. On parle beaucoup sur nos plateaux de la réponse pénale, de cette réponse pénale qui a du mal aujourd'hui à s'enclencher, tout bêtement, parce que là, on est face à un délit. Je vais dire quelque chose de choquant, mais un petit délit par rapport aux délits plus graves que l'on peut voir sur la voie publique, etc. Et donc, par définition, ce n'est pas forcément une priorité, alors que les moyens d'investigation de la police sont aujourd'hui déjà quelque peu dans la panade. Par ailleurs, la réponse pénale par derrière, le temps de la réponse pénale, donne le sentiment que quand bien même il y ait une identification et une enquête qui aboutissent, eh bien, parce qu'il n'y aura pas les moyens d'incarcérer, parce que tout ça va prendre des années et des années, de toute façon, ça ne mènera pas à grand-chose. Donc on peut comprendre le commerçant, mais on peut difficilement l'approuver. C'est-à-dire que Vous ne répondez pas à un délit par un autre délit. Vous ne répondez pas à un délit par le fait de jeter en pâture un individu ensuite sur les réseaux sociaux, etc., avec tout ce qui peut se passer par derrière en termes de vendetta, d'harcèlement, etc. Donc évidemment qu'on peut le comprendre, mais il ne faut pas non plus que ça généralise. La vraie solution, ce n'est pas une solution de justice personnelle, c'est une solution de politique publique. Ça implique de remettre la justice à l'endroit.
Jean-Michel Fauvergue, vous abondez dans ce sens-là. Et au fond, qu'est-ce que ça pourrait lui apporter, effectivement, de les exposer ainsi?
Alors d'abord, je partage tout ce qu'a dit Benjamin là-dessus, et en particulier la problématique de la justice chez nous, une justice beaucoup plus rapide et beaucoup plus sévère. Et sur le premier fait, ça ne veut pas dire forcément la prison, hein, mais une justice adaptée. Ça, c'est la première chose. Maintenant, sur des faits de ce type-là, on en voit de plus en plus et on voit, on est un peu sur la manière de faire un peu à l'anglo-saxonne du name and shame. C'est-à-dire on se défend en mettant sur les réseaux.
On expose, quoi.
Ouais. C'est... Alors, est-ce que moi, je ne suis pas choqué par cette manière de faire. Je vais peut-être vous choquer, vous, mais je ne suis pas choqué par cette manière de faire, dans la mesure où, à un certain moment, eh bien, quand vous avez une justice qui ne régule plus cet ensemble de choses, eh bien, c'est la société elle-même qui va trouver des moyens de régulation. Et dans ce domaine-là, eh bien, ce moyen de régulation, c'est de faire en sorte de désigner le coupable. Et alors, on sait malheureusement que ces gens-là qui ont volé peuvent déposer plainte contre le commerçant. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant parce qu'il y avait un principe de droit qui disait que personne ne peut justifier de sa propre turpitude. Et ça, c'était quelque chose qui était bien inscrit. Mais je pense que peut-être le fait de faire ça va faire en sorte d'abord de changer la donne, peut-être si beaucoup de gens la font ultérieurement. Et la deuxième chose, là, ça donne aussi, ça met l'index sur une problématique. Les policiers vont s'y intéresser. Ils vont être aidés par les caméras. Et peut-être que l'affaire, même s'il n'y a que 700 euros, entre guillemets, que 700 euros de préjudice, eh bien, ils s'y intéresseront et je pense que c'est une...
Mais lui, c'est son affaire. Donc, 700 euros...
Bien sûr, c'est important pour lui.
Mais, si ça lui arrive tous les jours...
Bien évidemment.
Alors, on a un pour, un contre. Gabriel Cluzel, vous vous dites quoi? C'est quoi le bénéfice-risque pour lui qui peut effectivement se voir... infliger une plainte.
Non, ça serait quand même assez ahurissant. Hein. Vous avez raison de rappeler, je crois que c'est le premier principe qu'on apprend en droit. Hein. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Mais c'est vrai que, en l'occurrence, donc, ce pourrait être ce commerçant qui pourrait être inquiété. Mais on voit le renversement de valeur. C'est-à-dire qu'on est là autour d'un plateau à se demander si vraiment c'est bien moral de mettre les photos des voleurs. Je rappelle que ce qui est vraiment pas moral, c'est de voler dans un magasin. Voilà. Et vous avez eu raison de le dire, Nelly, pour ce commerçant, c'est pas neutre, c'est pas négligeable. Quand vous parler avec des commerçants, c'est le vol aujourd'hui, c'est devenu
si 700 euros par jour, ça commence
un
à plomber l'affaire. Hein.
Alors d'autant ils parlent de ces vendeuses en disant qu'elles sont pas là pour faire de la police ou de ces vendeurs, mais c'est vrai qu'en plus c'est dangereux pour eux s'ils essaient d'arrêter quelqu'un qui est un peu violent, un maître de la sécurité, ça a un coût. Donc il ne sait pas quoi faire, on le sent démuni, il ne sait pas quoi faire, donc il s'est dit bah je vais les mettre sur les réseaux sociaux. Donc de fait, ça a été dit, c'est le reflux de l'autorité de l'État qui fait que sur tous les plans qui fait qu'aujourd'hui, les citoyens essaient de se débrouiller. On voit qu'on revient au Far West, d'ailleurs, parce que c'est les mêmes méthodes. On mettait wanted, les photos. Et c'est vrai que les Français cherchent des solutions pour se débrouiller tout seuls.
Elle voulait lui répondre vite fait sur un aspect.
Non, je ne veux pas lui répondre. Je veux aller dans son sens. La réalité des choses, c'est qu'on a de plus en plus ce type de comportement. Rappelez-vous, dans les cités, la population des cités qui essaye de chasser les dealers, on l'a vu récemment. Cette vieille cette octogénaire dont le mari avait été agressé, qui a mis un coup de couteau à son agresseur, etc. Les policiers qui même si ça reste marginal, qui font de plus en plus de policiers gendarmes, usage de leurs armes sur les cas de où les gens n'obtempèrent pas, etc. Les choses évoluent. On peut le regretter on le regrette. Les choses évoluent dans ce sens-là parce que à un certain moment, la régulation n'est plus faite d'une manière générale par l'État et d'une manière très particulière par son bras armé qui est la justice.
Benjamin Morin.
Oui, non, on peut être d'accord sur le constat, mais sur les solutions, j'en suis fondamentalement inquiet. C'est-à-dire que le principe de la modernité, c'est que la justice est publique. La justice n'est pas privée. Si jamais la justice est privée, eh bien c'est de la vengeance, c'est de la vendetta, et on ne sait pas où ça s'arrête. Et quelle est la contre-mesure? C'est-à-dire, il a volé dans mon magasin, quelle est la bonne contre-mesure? Souvenez-vous de l'affaire du bijoutier qui tire sur un cambrioleur.
À Nice.
Est-ce que c'est légitime? Est-ce que ça ne l'est pas? Quelle est la limite? En réalité, si vous n'avez pas une loi, si vous n'avez pas un État qui fait justement justice au nom de la nation, eh bien tout ça n'a pas de réponse. Et on rentre dans un cycle infernal où on a une société qui se délite. Donc malgré tout, j'entends ce qui a été dit, mais il faut arriver à retrouver notre justice.
Retour dans quelques minutes, on va s'interrompre à nouveau aux difficultés de nos commerçants, les bouchers hein, qui ont manifesté en nombre ce matin. Ça se passait à Bordeaux, vous verrez avec une de nos équipes. À tout à l'heure. 90 minutes info de retour pour la toute dernière partie de notre débat. Chaque jour, un éclairage sur une profession qui est en souffrance. On va le voir encore cette semaine assez largement. Et bien aujourd'hui, ce sont les bouchers qui donnaient de la voix à Bordeaux avec quelques actions choc au passage. Écoutez-en quelques-uns qu'on a pu rencontrer.
L'État nous met à poil, alors on se met à poil devant la mairie de Bordeaux. Très compliqué, la trésorerie, elle est à moins. T'as la banque qui t'appelle tous les jours, quoi. Et moi, j'ai été bosser l'été dernier un mois. J'ai fait la saison du 9 juillet au 15 août. J'ai été travailler avec ma femme en agence d'intérim. Tout le monde croyait que j'étais parti en vacances. Mais en fait, j'étais pas en vacances. J'ai été bosser pour payer mes crédits. Aujourd'hui, il y a des gars qui emploient 5-6 bouchers, qui font du chiffre d'affaires. Mais en fait, ça rentre pas assez pour tout payer. Ils sont déjà à sec en début d'année. Donc ça va être compliqué.
J'attends ma facture là qui doit tomber. J'ai peur parce que je ne sais même pas quand j'entends tous mes collègues qui ont eu des augmentations énormes. J'ai peur. Je me dis, est-ce que c'est moi qui ne vais pas fermer à la fin du mois? Moi aussi. Si je la reçois là avant la fin du mois, je peux aussi faire partie de ceux qui ferment.
Voilà, cette espèce de suspense intenable. Gabriel Cluzel, on sent bien que les temps aussi sont durs. On imagine les frais qu'ils ont. En termes énergétiques, ce sont des chambres froides, une obligation de conservation à des températures très basses hein, pour leur stock, leur livraison. Et on comprend évidemment cette détresse aussi.
Ah, moi, je trouve terrible le témoignage de ce monsieur qui dit qu'il a été obligé, pendant au moment où la plupart des Français prennent des vacances, d'aller dans une agence d'intérim et de faire de l'intérim pour tenir à flot sa boutique. C'est quand même terrible. Mais il faut voir que c'est pas seulement la détresse des bouchers, c'est la détresse du tissu social français. Parce que les bouchers, les boulangers, tous ces commerces qui accueillent les personnes âgées, les familles, enfin qui nous accueillent, s'ils disparaissent, parce que malheureusement on sait bien que ce sont les grandes surfaces qui ont plus de surfaces justement, qui ont le dos plus large, qui elles pourront résister. S'ils disparaissent, c'est vraiment tout un mode de vie à la française qui va disparaître. Donc c'est vraiment un point crucial et j'espère qu'ils seront entendus.
Et puis il y a un secteur qui est particulièrement touché, c'est aussi le bâtiment. On l'a vérifié en Corse avec nos équipes. Il y a évidemment la hausse des coûts des matériaux, des délais de livraison plus long, des carnets de commandes qui s'allongent. L'inquiétude grimpe dans ce secteur. Regardez ce reportage de Christina Luzzi, notre correspondante.
Depuis plusieurs mois, Jean-Marc, chef d'entreprise, est inquiet. En cause, le prix des matériaux indispensables à la construction de ces structures métalliques qui ne cesse d'augmenter.
Depuis décembre 2021 à aujourd'hui, on est passé quasiment à 100% d'augmentation.
Une hausse des prix inquiétante pour les entreprises et artisans du BTP qui ont du mal à préserver leurs marges.
On a des chefs d'entreprise qui nous disent « moi j'ai édité un devis qui aujourd'hui ne correspond plus avec ces hausses au travail que je vais fournir et je vais travailler à perte ».
Rogner sur les marges en absorbant les hausses pour ne pas les imputer aux clients, un équilibre impossible à tenir à long terme selon ces professionnels du BTP. Un manque de visibilité des carnets de commandes qui ont tendance à s'alléger en Corse laisse craindre des licenciements et des faillites dans ce secteur.
Forcément, on sera obligé de se séparer de nos employés, voire fermer totalement la société.
On ne va pas pouvoir continuer comme ça. C'est une crise sans précédent.
Tous espèrent des mesures fortes de la part du gouvernement pour sauver leur profession et une plus grande transparence de la part des distributeurs qu'ils soupçonnent de profiter du contexte inflationniste pour augmenter leurs marges. Ils se disent déjà prêts à descendre dans la rue pour faire entendre leur voix.
Vous voulez vous montrer un petit échantillon quand même, Jean-Michel Fauvergue, pour prouver au fond que c'est en train de craquer de toutes parts. Et on n'en est pas encore à évaluer la mobilisation, mais on voit bien que toutes les professions... sans pratiquement, en tout cas dans tout ce qui est TPE, PME, tout le monde est exsangue quoi, aujourd'hui.
Oui, ça craque de toutes parts parce qu'on est dans une crise généralisée, qui n'est pas que française d'ailleurs, une crise généralisée qui est à la fois conjoncturelle avec l'inflation, en espérant que ça ne dure pas trop longtemps, mais à la fois structurelle aussi avec l'énergie et en particulier avec notre énergie nucléaire et le plan énergétique qui a été mis en place, mais qui arrivera, qui sera livrable dans une quinzaine d'années, quoi. Donc on est effectivement sur cette crise-là qui impacte
tous les secteurs. Certains sont plus impactés que d'autres. On parlait des boulangers il y a deux semaines de ça. Là, visiblement, les bouchers aussi sont impactés. Sur le BTP, le BTP est impacté aussi non seulement par l'augmentation de la matière première, mais en plus la
crise de l'immobilier aussi, on peut le préciser. Hein.
Oui,
il y a une vraie crise de l'immobilier aujourd'hui, oui, avec les taux d'intérêt qui remontaient. Hein.
Tout à fait. La principale fabrique d'aluminium en Europe était à Mariupol. Donc là, c'est directement lié avec la crise de l'Ukraine. Mais effectivement, on est sur cette problématique-là qui va mettre un peu de temps à se résorber. En attendant, l'État donne des aides et on n'est plus sur le quoi qu'il en coûte. Hein, vous l'avez remarqué, parce que l'État arrive au bout de ce qu'il pouvait donner en termes de budgétaire, mais on est sur des aides qui sont ciblées pour les uns et pour les autres.
Ce qu'on comprend, Benjamin Morel, c'est que ceux qui n'ont pas une trésorerie solide là, pour tenir 6 mois, 1 an, ils ne tiendront pas la distance.
Ça va être extrêmement compliqué. C'est pour ça qu'il faut rapidement changer de paradigme. Parce que si on parle de la crise énergétique, le prix de la production d'électricité, ce n'est pas envolé. Il a augmenté, certes, mais ce n'est pas envolé. C'est le marché de l'électricité qui est dysfonctionnel. C'est le fait d'avoir indexé les prix de l'énergie sur le gaz qui fait que, artificiellement, on a une hausse de l'énergie. Donc soit on fait comme les Espagnols et les Portugais, on sort du marché de l'électricité européen, soit on réforme ce marché. Bruno Le Maire nous fait miroiter le fait qu'il va être réformé. Ça commence à faire du temps. Or, les entreprises, elles ne vont pas attendre 6 mois qu'on ait revu avec nos partenaires européens comment est-ce qu'on pourrait éventuellement et convaincu les Allemands qui ne veulent pas en entendre parler. Donc là, il y a aujourd'hui urgence sur les produits BTP, etc. Et également sur les boucheries. En réalité, il y a des productions de base, on en parlait au moment de la crise Covid, qu'il faut aujourd'hui relocaliser. Évidemment, la mondialisation sur certains produits peut apporter des choses, mais lorsque l'on parle de construction, lorsqu'on parle de nourriture, lorsqu'on parle de médicaments, il faut avoir des industries qui, du premier clou jusqu'à la dernière porte, eh bien, sont produites sur le sol national. Sinon, on est dépendant de flux internationaux qui, on l'a vu, sont instables.
Bon, en guise de conclusion, Gabriel Cluzel, on vient de passer 1h30 à dire que tout va mal à peu près dans tous les domaines. On ne peut pas présager ce qui va se passer jeudi, mais quand même, on voit que plus que jamais, les indices sont là pour faire sortir les gens dans la rue. Chacun a quelque chose à réclamer, à contester aussi.
Oui, le risque pour le gouvernement, c'est que ce sujet des retraites soit en fait une cristallisation, un point de convergence de toutes les inquiétudes, de toutes les souffrances qui ne sont liées de près ou de loin aux retraites, mais même si elles sont liées de loin, qu'elles suscitent en fait une adhésion de la population. Maintenant, est-ce que les Français vont descendre dans la rue massivement? Ça, c'est difficile à dire, parce que toutes ces petites entreprises dont nous avons parlé, elles ont besoin d'être là pour travailler tous les jours. Elles ne peuvent pas s'offrir le luxe de faire grève. Donc c'est difficile de mesurer par avance la mobilisation, ce qui peut expliquer la dichotomie entre le soutien des Français à cette lutte contre la réforme des retraites, qui sont contre la réforme des retraites et qui néanmoins ne sont pas prêts à se mobiliser.
S'il y a que, en un mot, vraiment en un mot, on a 30 secondes, s'il n'y a que les fonctionnaires qui se déplacent et pas le secteur privé, ce sera un échec, enfin en tout cas on verra cette réforme voir le jour.
Tout dépend si jamais il y a blocage. Si jamais il y a blocage, non, pas forcément. Mais encore une fois, aujourd'hui, si jamais dans quelques secteurs bloquants, quelques personnes font grève, eh bien ça peut, on l'a vu sur les raffineries, tout bloquer, donc à voir.
Merci à tous les trois de m'avoir accompagné en ce lundi. Dans un instant, évidemment, c'est Laurence Ferrari que vous retrouvez pour le début de Punchline. J'étais ravie de vous retrouver pour ce début de semaine. Et rendez-vous demain, 15h30, au même endroit. À bientôt sur CNews.